RTL L'équipe.
Croisée courte gagnante.
Carrément tennis.
Superbe attaque de coup droit.
Eric Silvestro.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme toutes les semaines à l'écoute d'RTL, l'équipe Carrément Tennis, toute l'actualité de la petite balle jaune sur la planète tennis. On va parler bien sûr des Master 1000 américains. Indian Wells, c'est terminé, on enchaîne tout de suite avec Miami et pour l'instant rien ne change. Semaine après semaine, le numéro 1 sur la planète tennis, c'est Novak Djokovic. Pas au classement, il est uniquement pour l'instant numéro 2, il est passé devant Roger Federer, mais il mène la chasse à un train d'enfer derrière Rafael Nadal. Djokovic invincible donc, 20 matchs, 20 victoires cette année, le doublé Federer et Nadal dans le même tournoi à Indian Wells. L'Espagnol tout de même jusqu'en finale, il défend corps perdu cette place de numéro 1 pour Federer. Certains annoncent un nouveau déclin, comme ça arrive de temps en temps, lui ne s'inquiète pas, on en parle ce matin. Il faudra sortir vos calculatrices parce que déjà nous sommes dans les petits comptes d'ici Wimbledon. Nadal a, tenez-vous bien, 7405 points à défendre, beaucoup plus que les autres. Va-t-il tenir son rang de numéro 1? Est-ce que Djokovic peut s'y glisser ou peut-être même Federer qui court toujours derrière la semaine qui lui manque pour battre le record de Pete Sampras? Ça va animer bien sûr les prochaines semaines. Les Français également, on attend la confirmation de Richard Gasquet, désormais sous la houlette de Sébastien Grosjean et Ricardo Piatti, mais également nourri par Émilie Loi. Vous allez comprendre ça dans quelques minutes. N'empêche, ça marche. Mais tout le monde me regarde avec un regard.
N'importe quoi.
Attendez, il est désormais nourri au sein d'Émilie Loi, Richard Gasquet, n'oubliez pas. Et ça marche, bien sûr que ça marche. Le Français nous régale, 18e mondial. Peut-il, tiens, lui aussi, faire son retour dans le top 10 à relatif moyen terme? Pourquoi pas? Del Potro aussi, attention, l'Argentin a gagné près de 430 places en l'espace de 2 mois. Il est désormais 51e. Il vient de faire demi-finale à Indian Wells. Et puis, les filles, c'est Wozniacki, plus que jamais la numéro 1 après sa victoire à Indian Wells. Mais la belle perf de la semaine, elle est pour Marion Bartoli, finaliste donc et de retour dans le top 10. On en parle également. Vous entendrez Nicolas Escudé, le capitaine de la Fed Cup, où l'on reparle du retour de Marion en équipe de France.
Like this. RTL équipe, Carrément Tennis.
Notre experte, une de nos expertes est partie à Miami, mais grâce à elle, vous allez entendre tous les acteurs de ces tournois du tennis. Myrte Tyrambion, que l'on salue, elle est en train de dormir, bien sûr. Les deux autres expertes sont là. Carole Bouchard, bonjour.
Bonjour à tous.
Madame Novak Djokovic, oh, bah, qui a un sourire depuis le début de l'année. Vous pouvez tomber le noir, hein, vous pouvez sortir la couleur.
Tu le nourris au sein, lui aussi, ou pas?
Vous demandez à Eric, c'est lui qui a tous les tuyaux.
La mère de Richard Gasquet, quelque
arrêtez
part.
Vos conneries.
Non.
Émilie Loi, bonjour.
Bonjour. N'importe quoi.
Il réclame, hein. Ça y est, il réclame. Mais ouais, il a besoin de sa dose, hein. Ça le porte.
Dis pas ce genre de choses quand on arrive à Miami.
Julien Varlet, bonjour.
Bonjour, j'allais sortir une grosse bêtise.
Non.
Je vais m'abstenir.
Voilà. Surtout pas.
Non, parce quoi qu'elle est pas mal. Non, si moi, suffisait de têter Émilie Loi pour gagner des matchs.
Vous vous jetteriez à corps perdu
pour relancer ma carrière.
Genre c'est simple de gagner ou genre c'est simple de t'éteindre, Émilie Loi?
Vous avez complètement craqué aujourd'hui.
Non mais ça va pas, non.
C'est le premier à avoir lancé le truc et...
Puis attends, faut y aller aussi quoi.
Attends,
il ne marche pas au lait maternel, il ne marche qu'au jus d'orange. Orange juice, monsieur Benoît Mélin, bonjour.
Bonjour.
Ça va?
Ah bah ouais, ça y est, je me remets du décalage d'Indian Wells. Et
vous allez attaquer Miami.
On va replonger dans le décalage de Miami, mais plus simple.
Mais après, malheureusement pour les téléspectateurs à qui vous allez manquer, vous aurez une petite semaine de coupure pendant le Master 1000 de Monte Carlo que vous ne diffuserez pas. C'est le seul de l'année qui est chez vos confrères de Canal Plus et France Télévisions. Mais vous viendrez quand même.
Bien sûr.
Pour suivre le cirque.
Bien sûr, on fera notre émission
Carrément Tennis.
Non,
si vous voulez, parce qu'à Monte Carlo, c'est pas toujours facile.
Ah ouais.
Surtout pour lui.
Bon, on en est pas encore là, comme dit Julien Varlet, on a le temps. Monte Carlo, c'est du 9 au 17 avril, donc on n'en est pas encore là. Pour l'instant, nous sommes en plein dans la tournée américaine, Indian Wells, Miami, et après l'Open d'Australie, après Dubaï, on pourrait même rajouter la Coupe Davis en décembre, Novak Djokovic demeure inarrêtable, Carole Bouchard, 20 sur 20, le voilà avec 3 titres, invaincu cette saison. Qui va l'arrêter? Qui va l'arrêter?
C'est la question. Je veux dire que Rafa a failli pendant un set à Indian Wells, et puis la... l'inconfiance incroyable, même physiquement, je pensais qu'il allait commencer à craquer, pas du tout. Dans la tête, il était plus fort que Nadal sur la fin du match, ce qui est quand même pas rien. Maintenant, je me dis qu'à Miami, ça m'étonnerait qu'il peut pas tenir à ce rythme-là. Et quelque part, il voudrait peut-être mieux qu'il ne tienne pas ce rythme-là encore jusqu'à la fin de Miami, parce que là, il va cramer. Mais c'est incroyable de voir ce que la confiance fait sur un joueur.
Très impressionnant, en effet, Novak Djokovic. Julien, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Tout le monde le dit, d'ailleurs, Federer, Nadal, tout le monde reconnaît. C'est difficile de dire autre chose. De toute façon, c'est le meilleur du moment. Il le dit lui-même, je joue le meilleur tennis de ma vie.
Oui, puis ce qu'il fait bien aussi, c'est que cette préparation et cette programmation, elle est parfaite. Comme Benoît, on avait parlé début janvier, c'est que lui, son objectif, son dernier grand chelem de la saison était plutôt celui de l'Australian Open. Et il s'est bien préparé. Il a vraiment, je trouve, très très bien calculé sa préparation. Maintenant, il enchaîne vraiment depuis quelques semaines. Donc, est-ce qu'il va continuer à tenir? Déjà physiquement, moi, je trouve que voilà, il a aucun souci. Il y aura pas mal de joueurs qui commenceraient à avoir quelques petits bobos par-ci par-là. Déjà, pas du tout. Et puis voilà, par sa façon de jouer, moi je trouve qu'il gagne encore, alors même si certains n'aiment pas forcément ce mot, mais en volume de jeu, en puissance, en lourdeur de balle.
Alors on parle beaucoup du physique, mais Benoît, il n'a pas beaucoup joué, Novak Djokovic, contrairement peut-être aux années précédentes.
La coupure de février,
il a fait l'Open d'Australie, Dubaï, Indian Wells, c'est pas
stacanoviste. Bah non, qu'est-ce que je te dis?
Il va à chaque fois quand même.
Non, parce qu'on pourrait imaginer qu'il a joué toutes les semaines comme un fou. Non, au contraire, il s'est laissé les semaines de coupe.
Il a pas joué Rotterdam, il a pas joué la Coupe Davis, un Masters 1000, c'est 5 matchs.
Il se balade, quoi.
C'est de la rigolade. Je ne vois pas du tout pourquoi il calerait sur Miami.
Sa programmation est bien étudiée.
Elle est bien faite. Avec le Vajda, ils ont travaillé juste ce qu'il fallait. De toute façon, c'est son pic de forme, apparemment, d'après Vajda et les sparring partners qui sont autour, ce serait pour arriver le plus fort possible sur Madrid. Madrid, Rome, Roland. Voilà, c'est ça, c'est son pic de forme.
Il n'est pas au pic de forme.
Non, mais la saison sur Terre. Ouais, mais en plus, sur Terre, Nana, elle fait demi à Roland. Donc, il n'y a pas de raison que cette année, il ne confirme pas, voire fait mieux.
Car,
deux fois demi.
Non, mais je trouve que sa programmation est parfaite. Il n'y a pas de raison pour moi qu'il cale à Miami. Effectivement, il a gagné Indian Wells, mais il n'a pas eu non plus des matchs. Super dur. Voilà, ils se sont permis même d'aller à
la petite exhibition en Colombie entre les deux.
Tranquille.
Non, attends, la finale a été monumentale.
Oui, mais je veux dire, il joue 5 matchs.
Il met 0-1 à Troïki, mais.
Mais là, il n'y avait pas de match. De toute façon, il a pas joué avant les 8e. Hein.
Oui, donc voilà, il n'est pas fatigué
fatigué. Donc, mais comme l'a déclaré Rafael Nadal, il va falloir attendre. Pour faire un bon point au bout de 6 mois, c'est-à-dire après Roland Garros, on verra s'il a la possibilité de.
On va en effet sortir les calculs tout à l'heure. Ouais. Je voudrais qu'on se concentre 2 secondes quand même sur l'évolution de Novak Djokovic. Pourquoi d'un seul coup, on sait que c'est un joueur très fort. Il y a un peu plus. Il dit je sais gérer mes émotions sur le court et notamment mes temps faibles et physiquement je suis encore plus fort. Est-ce que ces deux évolutions là sont suffisantes pour expliquer sa réussite actuelle, Julien?
Il n'y a pas que ces deux évolutions là, mais je pense que surtout le fait d'avoir mine de rien gagné la Coupe Davis, là la gestion des émotions, elles ont été présentes durant la finale de la Coupe Davis.
Et il avait
très bien
déjà
fait.
Parfait en finale de Coupe Davis.
Ce qu'il a déjà bien fait, en plus en arrivant sur l'Australian Open, une fois de plus, il a bien géré aussi ces moments-là, et de plus en plus on l'attend, et il a l'air de bien gérer ça. Et puis ce que je trouve aussi super sympa, c'est qu'il est toujours aussi cool, il a l'air très avenant, agréable, et ça c'est plutôt bien, il se renferme pas, au contraire on a l'impression qu'il s'ouvre tout en restant concentré sur son objectif.
Et il nous fait une Nadal par rapport à Federer quand il reçoit le trophée en disant c'est le meilleur joueur de tous les temps Nadal, c'est ce que en général Nadal disait de Federer quand il le battait en finale. Il nous fait aussi un petit peu de modestie fausse peut-être, mais quand même c'est bien joué.
Moi je me demande, connaissant un peu le bonhomme, est-ce qu'il le fait pas à dessein pour taper un peu sur le système de son rival suisse, ça serait pas un peu, c'était assez drôle parce que ça a quand même fait un petit peu de buzz. Les, évidemment, les supporters de Federer étaient assez outrés. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte encore? C'est quelle arrogance? Il le fait exprès. Donc ça me fait rire parce qu'il vient toujours mettre la petite graine pour faire parler. Mais pour en revenir au progrès, il y a aussi, c'est passé inaperçu. Mais après Wimbledon, il a dit 2-3 phrases comme ça en disant j'ai fait le choix de me concentrer sur moi et d'arrêter de gérer les problèmes des autres. Il y a eu trop de monde. On voit moins les parents, ils n'étaient pas à Melbourne, ils n'étaient pas à Indian Wells. Est-ce qu'il n'a pas aussi fait couper le cordon, comme on le demande aussi à Andy Murray?
Il grandit, Novak Djokovic, il a 23 ans, il va atteindre son summum aussi peut-être.
Il était prédestiné quasiment, ce garçon, il veut être numéro 1 depuis qu'il a 6 ans, il a un ego incroyable,
aussi,
il a tout pour être un champion. Ça fait longtemps qu'on l'attend.
C'est pour ça que je ne vais pas y arriver.
Est-ce que vous rangiez votre sac dès l'âge de 6 ans avec les petites chemisettes pliées, tout comme les champions?
Bien sûr.
On rigole ou quoi? Non, non, mais après, il a que 23 ans. Après, je pense que c'est encore une fois, tu te rends compte que voilà, c'est fondateur, tout ça, c'est la Coupe Davis. À partir du moment où le mec il gagne la Coupe Davis, encore au Masters, on s'est foutu de lui avec ses lentilles. Hein, donc, faut arrêter sur le côté. Tout d'un coup, maintenant, ça y est, Djokovic est parfait. On n'en sait rien. On verra bien sur l'année. Déjà sur une année entière.
Il y a pas encore une grosse chaleur à l'Open d'Australie.
Si, il nous a fait des petits trucs. Hein, t'inquiète, chargé, hein. Il nous a déjà fait des petits trucs à Dubaï. Il nous a fait des petits trucs
mais
à Indian Wells de temps en temps.
Mais
voilà, maintenant, il en a plus besoin. Avant, peut-être qui se reposait ou il s'excusait inconsciemment là-dessus en se disant bon, je vais peut-être perdre, donc imaginons que je sois vraiment cané physiquement, imaginons un truc quoi. Là il en a plus besoin parce que de toute façon il le dit lui-même, je tape dans une balle qui est grosse comme un ballon de foot parce que je me pose aucune question, je peux fermer les yeux quand je frappe un revers, de toute façon je sais que la balle est dans le court. Et en plus il y avait une stat, alors c'est la première fois que je voyais ça, que j'ai trouvé absolument remarquable à Indian Wells, c'est le net average, c'est-à-dire la hauteur de la balle en moyenne qui passe au-dessus du filet. Et tu te rends compte que Fed a très très peu de sécurité sur ses frappes, Nadal beaucoup trop. Une surface comme ça.
Et Djoko est entre les deux.
Et Djoko est entre les deux. Mais c'est parfait parce que là, sur une Indian Wells, c'est une surface qui est parfaite pour ça. C'est-à-dire, c'est pas du ciment pur.
Très rapide, comme à Miami.
Le rebond est haut. Et c'est quand même un temps super
sec. Oui, mais est-ce que cette statistique, on la retrouvera pas sur l'essentiel des tournois? C'est un peu
le style
de jeu que Federer soit peut-être le plus. Non, mais Federer est tendu, Djoko est au milieu, Nadal est au-dessus. Ça me semble quelque chose d'assez juste par rapport à leur jeu.
Peut-être au changement de la surface. Sur Terre, on retrouvera des balles beaucoup plus bombées.
Beaucoup plus bombées chez Djokovic.
Mais Nadal sera toujours un peu plus haut que Djokovic. Ouais. Et voilà, je pense que le style de jeu aussi des chacun est comme ça.
Pas évident parce que tu te rends compte que les trajectoires de Nadal deviennent de moins en moins bombées. Il la garde
côté
sur son
revers,
droit, mais
côté revers,
ça devient très compliqué pour lui. Parce qu'il se rend compte que pour arriver au niveau de Djokovic et avoir sa régularité du fond du court, côté revers... Puisque Djokovic ne l'agresse pas côté revers, il l'agresse côté coup droit.
Il a bien tenu un set.
Je vais vous faire une confidence, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je pensais vraiment, en arrivant à cette finale, déjà il y a eu l'alerte Karlovic. Bon, Karlovic, c'est un match un peu particulier.
Oui, d'ailleurs, tu n'as pas parlé de Karlovic dans ton introduction qui dure toujours 5 minutes.
Non, non, pas du tout, 1 minute 50.
Il y a peut-être Del Potro dans l'histoire, mais je te rappelle que Ivo Karlovic a fait un tournoi de dingue.
Ouais.
Et ce mec-là était top 15.
Il fait un super match contre Nadal.
Va falloir s'en méfier de ce mec.
Ah, excuse-moi.
Attends, le
donc
gars,
tu juges que le
c'est une puanteur, ce gars-là.
Tu juges que le retour de Karlovic pour l'instant est à prendre aussi au sérieux, au même niveau que celui de Del Potro.
Ah, pour l'instant,
non.
Del Potro, il a pas gagné un tournoi.
Il a gagné un tournoi.
Okay. On va le surveiller, Karlovic.
Mais t'as craqué complètement.
Mais Del Potro, c'est
Karlovic.
Pour revenir à mon idée initiale, mon Nadal n'avait pas joué un gros match quand même avant d'arriver. Même en finale, j'ai envie de dire. De gros matchs. Je me suis dit, avec Djoko, il est sur un nuage. Nadal, il va se prendre 3 et 3,
non,
et on va voir la différence du moment.
Alors,
et très honnêtement, mon cœur, j'avoue, un peu... J'étais rassuré, mais vraiment rassuré, par la finale et par le niveau de jeu de Rafael Nadal.
Moi, je me disais quasiment l'inverse, parce qu'il avait une telle fraîcheur, Nadal, et il avait tellement envie de le gagner. Le premier set, c'est typiquement ça. C'était lui qui était le plus frais, il avait la bonne tactique, il était en plein dedans.
Il s'est pas éteint physiquement, c'est le service
Il n'y a pas eu que le service, parce que le coup droit s'est déréglé aussi, et dans la tête,
il est en confiance, mais
il
tenait face au meilleur joueur du monde, voire il a dominé pendant un set presque et demi.
T'imagines, une fois de plus, je répète peut-être souvent ça, mais ça veut dire que son niveau moyen, sans être exceptionnel, il arrive en finale de Indian Wells et il est à deux doigts de le gagner. Donc t'imagines à partir du moment où il va retrouver comment dire,
moi je pense que quand les grains de terre battue vont atteindre les naseaux,
la balle elle part bien, il y a pas de...
Non, mais ce qui est impressionnant, c'est que c'est depuis l'Open d'Australie. Il n'a pas joué, il n'a pas eu de vraies oppositions. Et c'est vrai qu'en finale, il peut être que rassuré, même si à la fin, il y a le service effectivement qui le lâche, etc. Et l'autre est sur son nuage. Mais je trouve que son niveau moyen, comme le dit Julien, est exceptionnel. Donc sur Terre, ça va être intéressant. Pour moi, il va être
monstrueux.
Mais il va falloir voir Djokovic, ça va être intéressant aussi. Même si c'est pas sa surface.
Terre. Bah il l'a déjà accroché.
Moi je le vois aller en finale quand même parce
il
que
l'a
Roger
déjà accroché.
Attends, finale 2. Roland.
Ah, je le vois aller
en finale de Roland Garros.
Ouais, finale de Roland. Même avant ce tournoi à Madrid,
c'est un joueur
il va faire deux gros tournois de préparation plus le Grand Chelem. Pour moi,
attention, attention.
Tu vois qui?
Ben je vois Nadal parce que Nadal a cette dimension physique que personne n'a.
Mais face à Nadal,
Benoît,
j'ai pas
elle
dit qu'il allait gagner, j'ai dit finale.
Elle a raison, Émilie.
Je vois Nadal.
Il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que désormais dans les tableaux, Nadal sera tout en haut, Djokovic sera tout en bas.
Mais
donc on
n'aura
plus les mêmes demi-finales qu'avant.
Mais même
et là,
ça.
Par exemple, dès Miami, on peut avoir un Federer-Nadal en demi parce qu'ils sont tous les deux du même côté. du tableau, ce qui n'était jamais le cas avant. Et là, donc, Djokovic, normalement, se protège de Nadal sur tous les tournois jusqu'en finale.
Même sans ça, Djokovic est un excellent joueur de terre battue, peut-être même un des meilleurs derrière Rafa. Il a gagné deux fois Rome. Il y a eu cette demi de Madrid contre Nadal qui était hallucinante. Ce garçon, sur terre battue, ça, il peut briller.
Ouais, mais là, vous enflammez pas. Il y a encore Indian Wells. Kevin, on n'est pas encore sur terre.
La gestion de la saison sur terre pour Rafa et Djokovic va être, à mon avis, la clé pour Roland. Parce que s'ils nous font les ogres comme les, et qu'ils se crament avant,
Nadal risque d'aller rejouer Barcelone, ce qu'il n'avait pas fait l'an dernier, pour récupérer 250 petits points.
Non, mais les joueurs, ils se connaissent maintenant, ils vont pas se cramer avant.
Ah, ils l'ont déjà fait.
Juste, trois victoires consécutives contre Federer, quand même, de la part de Djoko. Ça commence à être une petite série. Alors, Federer dit, non, pas du tout, je l'ai battu au Masters. Bon, ok, mais trois d'affilée, quand même. Ça commence à...
Ouais, mais mine de rien, le petit père Roger, il est... Alors c'est peut-être dur ce que je veux dire, mais il se rapproche plus de la sortie que... Donc il y a des chances qu'on le voit perdre de plus en plus souvent. Mine
attention, il s'en défend. Hein. Il m'a dit, oui, qui c'est qui parle de déclin oui, vous allez l'entendre tout à l'heure.
Il, pas il dire a raison, mais de toute façon, mais... sinon il arrête. Mais dans voilà, là dans l'absolu, le gars, il gagne en indoor, sur des surfaces rapides et en 2-7. Et pas du top 10. S'il a du top 10, que c'est à l'extérieur et qu'en plus ça devient dur, il est plus.
Non, il est plus. Il est plus
à ce niveau-là. Il est plus à ce niveau.
Et il ne monte plus. Hein.
Il n'est pas loin. Il n'est pas loin, certes, mais il n'est plus à ce niveau.
La fameuse révolution Anacon face à Djokovic, je ne l'ai toujours pas vu.
Eh bien, moi, je pense qu'il va gagner Miami.
Peut-être.
Bah, c'est sa surface. Parce que la surface est rapide. Ouais. Donc.
Et qui va dire à tout le monde, alors comme ça, je suis où là ?
Ça dépend contre qui. Il ne va pas gagner Miami. Hein.
Ça dépend contre qui il le gagne. S'il gagne par défaut.
Il y a un mec qui lui renvoie 4 balles sur le revers, c'est fini.
Attends, tu es en train de parler comme d'un minime qui apprend à jouer au tennis. Tu lui envoies 4 balles sur le revers, c'est fini.
Quand tu vas gagner ces tournois-là, tu ne vas pas jouer un peintre en quart, en demi, en finale. Donc, à un moment ou à un autre, si tu n'es pas capable d'avoir une régularité du fond du court pour contrecarrer tous ces pingouins-là. Parce que le truc, c'est que moi, c'est ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'il n'y a plus de création, en fait, là, sur le court. On est sur des mecs qui balancent quand même une régularité qui est absolument dingue. C'est génial, mais il n'y a pas cette
de
petite
créativité.
Étincelle. Bah ouais.
Ça dépend. Ça dépend sur quel match.
Par contre, jusqu'en demi, je ne vois pas qui peut l'embêter déjà.
Ah, il peut se passer n'importe
non,
quoi.
Non, mais c'est les... manière, c'est que ça sera. Enfin, le
oui,
vrai non, test,
bien sûr,
c'est
il peut se passer n'importe quoi, je suis d'accord.
Là,
mais...
tu tombes sur le petit Ryan Harrison, là,
oh,
qui
arrête,
est une espèce de
une
pourriture absolue, mais il jouera pas Federer.
Raonic,
mais je te parle pas de Ryan Harrison en finale. Je te dis que n'importe quel joueur à l'heure actuelle. Tu les joues au premier tour, au deuxième tour.
Ça va être pour Gilles Simon. Hein,
moi, je pense qu'il bloque contre les Cadors.
Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'important aussi, c'est que de plus en plus. Les joueurs qui se retrouvent derrière le top 10, même le top 20, bien se disent que Federer est jouable.
Prenable,
donc,
ouais.
Voilà, tu rentres sur le court, tu te dis plus forcément, je vais prendre une doudoune par Federer. Non, je peux peut-être l'embêter si je mets en place une certaine tactique. Alors après, de la gagner, c'est encore autre chose, mais au moins, tu rentres un peu plus confiant sur le terrain.
En tout cas, je voudrais qu'on l'écoute. Tiens, Roger Federer, tout de même, au micro de Myrti Rambion, traduction signée Emmanuel Barthes, car il a refusé de parler en français, Roger Federer, lors de la round table, le media day, comme on appelle juste avant le début d'un tournoi Master 1000. Les meilleurs mondiaux viennent toujours rencontrer la presse quelques minutes. Et il a été décidé, en accord avec les organisateurs et les gens de l'ATP, que Roger Federer ne parlerait qu'en anglais, ce qui est quand même assez rare aussi. En général, il y a quand même toujours deux mots en français. Donc c'est pour ça, ne vous étonnez pas, Roger Federer, le son enregistré et l'interview réalisée par Myrti Rambion est en anglais, avec la traduction donc d'Emmanuel Barthes.
Pourquoi est-ce difficile ? Je crois que d'une manière générale, c'est compliqué de remporter deux Masters 1000 consécutifs, parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs dès les premiers tours. Ici, on ne peut pas se cacher derrière l'excuse du manque de temps pour se préparer, parce que de fait, on a suffisamment de temps. Donc je crois que cela tient surtout au fait qu'à Indian Wells et ici, beaucoup de gars jouent bien parce que la saison est lancée, et puis tout le monde s'est joué sur dur. Ce n'est pas une surface qui favorise un type de jeu en particulier. Les Sud-Américains ont autant leurs chances que les Européens ou les Américains. C'est ouvert et c'est pour cela que c'est difficile. Mais en même temps, si vous êtes sur un nuage, comme c'est le cas de Novak en ce moment, ou comme j'ai pu l'être il y a quelques années lorsque j'ai réussi le doublé, vous pouvez le faire pour peu que le tableau se goupille bien, parce que vous jouez bien, vous ne réfléchissez pas trop et que vous êtes tout simplement meilleur que les autres à ce moment-là.
Roger Federer au micro de Myrti Rambion. Ce qui est intéressant, c'est qu'il évoque le doublé Indian Wells Miami dans son petit échange avec Myrti. C'est un doublé qui est assez rare, et ce qui est encore plus rare, c'est le triplé Open d'Australie, Indian Wells, Miami, à savoir les trois principaux tournois jusqu'en mars. Seuls Pete Sampras, André Agassi et Roger Federer l'ont réussi au moins une fois, ce triplé. Est-ce que selon vous, Djoko va le faire, ce triplé, ou est-ce que la série va s'arrêter à Miami.
Ce serait énorme.
Bah, hein. Il peut le faire. Est-ce qu'il va le faire, ça ? On sait rien, mais il peut le faire. En tout cas, physiquement, il n'y a rien qui montre, il n'y a aucune faiblesse particulière. Donc, il peut. Alors, effectivement, les conditions à Miami ne lui sont pas favorables.
Un peu plus rapide, c'est pas forcément...
Parce que c'est plus rapide et déjà, il fait beaucoup plus chaud, c'est très humide. Mais sinon, dans l'absolu, s'il arrive à bien gérer tous ses paramètres extérieurs, pourquoi pas?
Et cette transition Indian Wells Miami, comme on a deux anciens joueurs, est-ce qu'elle est-il? Parce qu'il y a eu des années où il avait fait, l'année où il gagne, je crois, il perd au premier tour ou au deuxième contre à Miami. Pareil pour Nadal qui a eu du mal. Est-ce que c'est si dur que ça de changer ces deux surfaces-là ou pas?
Bah, disons que Indian Wells, c'est de l'altitude. Donc, c'est vrai que ça change. Là, tu reviens au niveau de la mer. Donc, il y a juste ça, mais. S'ils ont perdu au premier tour, c'est juste voilà, une question de fatigue. Mmh. Après, au niveau de l'adaptation, il y a bien 5-6 jours hein, qui séparent entre la finale...
Parce qu'il y a un peu de décalage horaire aussi, hein.
Ouais, non mais je pense que c'est surtout...
Pour eux, c'est que dalle.
Comme souvent, ça arrive, c'est d'enchaîner un deuxième tournoi, se remettre tout de suite dedans. Voilà, c'est jamais forcément évident. Donc voilà, tu peux te faire un peu contrer, mais bon, je pense que c'est pas... Non, l'enchaînement n'est pas non plus...
L'enchaînement n'est pas terrible.
C'est pas de la terre.
Il joue quoi et... il joue aujourd'hui Non, même pas. Il va jouer demain.
Non, ils ont un bail.
Même pas. Il est bas du tableau, donc il va jouer dimanche. Il a une semaine pleine.
Une semaine, oui. Pour traverser le
il a joué au foot, pour le Japon.
Il était à Bogota. Il était à faire du tennis sur un avion.
Non, c'était avant ça.
Mais Bogota, c'est quand même énorme.
On va préciser pour nos auditeurs, parce que pour vous, ça vous paraît évident, mais le tennis sur l'avion, c'est la nouvelle publicité tournée par Novak Djokovic.
Apparemment, c'est sans trucage.
Pour son équipe entière.
Bien sûr.
Sans trucage.
C'est beaucoup plus dur.
Le mec, l'assurance, je ne suis pas sûr que. Un joueur de ce niveau-là, on l'aurait laissé faire ça.
Alors, sur un biplane à hélice qui n'a pas volé depuis 70 ans, il va se mettre debout sur l'aile pour jouer au tennis.
Lui, il l'aurait fait, mais sans trucage.
À découvrir, en tout cas, sur Internet, pour ceux qui ne l'ont pas vu. La pub est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup, quelque part, l'humour qu'il met sur lui-même au début, avant qu'il monte sur l'avion, quand la jeune fille arrive.
C'est Djoko.
Il est en train de faire rebondir la balle. Il est assis dans une espèce de transat, là, sur le sable. Mmh. Et il fait rebondir la balle. Pour moi, ça me fait penser aux 42 rebonds au service, en fait.
Mais par contre, ça va falloir qu'il arrête, quoi. Moi, ça me fait rire, mais ça fait beaucoup rire les autres.
Mais
plus il stresse, en fait, plus ça, il en est à combien? Mais 20
bah, moment, chaque... Ah, bah, il y en a qui bégayent, lui, il fait rebondir sa balle.
En ce moment.
Ça peut durer une éternité.
Attends, Nadal, voilà, il se remet le slip. Landel, il avait sa résine, sa sciure dans la poche.
Hors du jeu d'avoir un Djoko au top comme ça, moi je trouve ça assez bien pour le tennis en général, si les autres répondent, parce que c'est pas du tout les mêmes personnalités et ça peut donner quelque chose d'assez comique.
Alors, avant les infos, dans 8 minutes, déjà il est temps de voir si vous êtes fort en maths.
Oh punaise.
On va sortir un peu les calculettes, parce que là, la place de numéro 1 est en jeu. Pas à court terme, mais
vous êtes en plein délire.
Mais il a 3000 et quelques points d'avance.
Il a quasiment 4000, 3009 et quelques.
On va poser le
premier qui perd le
deuxième tour.
Deux Masters 1000.
Attendez. 1er janvier, 6210 points d'avance.
Mais alors ?
2 mois après, l'avance a fondu de près de 2500 points.
Bah, c'est normal, il était blessé.
On en est à 3900.
Que sort que 2005.
Il y a 3900 points d'écart.
Non, mais mathématiquement, c'est vrai.
Mais. Jusqu'à Wimbledon, Nadal a 7405 points à défendre.
Mais ouais, parce qu'il va perdre à chaque fois au premier tour.
Non, bien sûr que non. Djokovic, 1695.
Et donc il va gagner tous les tours.
5710 points de moins à défendre.
Oui, mais dans l'absolu.
Alors, non, mais
il va gagner, il va rafler tous les tournois sur Terre et on va plus en parler.
Pour moi, je trouve que ça veut rien dire.
C'est bien,
ça
non, mais c'est bien, dire, c'est bien que tu aies calculé, là. C'est très bien, bravo.
À ce niveau-là, quand tu es
non, mais mathématiquement, c'est possible.
Tu calcules pas les points à défendre.
Que tu sois numéro mondial au numéro 50 ou numéro 110, à un moment donné, bien des points à défendre, donc il faut bien qu'ils défendent. Mais je pense
vous êtes en train de me dire que la place de numéro 1 n'a aucun intérêt.
La place de numéro 1, si elle doit se jouer quelque part, c'est potentiellement sur la fin de l'année et encore.
En même temps, c'est quasiment impossible de
savoir ce qui va se passer avant la fin de l'année.
Ça, c'est évident. Je te dis pas qu'on va dire ce qui va se passer. On peut y réfléchir. On peut aussi imaginer un Djoko qui s'empare de la place de numéro 1 dans le courant de l'année jusqu'à Wim ou après Wim.
J'y crois pas.
Et qu'il la relaisse à Nadal.
Mais on peut s'imaginer plein de choses.
Mais regarde, après. On peut sortir tous les calculs qu'on veut, c'est quasiment impossible. Nadal, de toute façon, ne perdra pas au premier tour sur les tournois sur terre battue, c'est impossible.
Et il ne perdra accident, pas. Une blessure, n'importe quoi.
Bah
d'accord.
Voilà.
Ah bah d'accord. Bah oui, mais si on parle, il y a les Martiens
et
puis, qui débarquent.
Et le petit père Djokovic, il peut avoir un petit coup de mou aussi. Hein. Il va pas non plus gagner tout le tournoi toute l'année.
Non, mais même. Sans penser à ça,
il va gagner au moins 3 sur 4.
Si tu penses jeu, pur jeu.
Ouais.
D'accord. Tu vas avoir de toute façon des joueurs qui ont l'habitude d'être au minimum en quart de finale, qui, sur les grands chelems, l'année dernière, n'ont fait que ça, des quarts, des demi ou des victoires.
Alors, je t'arrête tout de suite. Un quart de finale en grand chelem, c'est 360 points. Une victoire, c'est 2000. Oui. Donc, tu dis, je suis en quart, ok, mais si tu perds en quart et que l'autre gagne, il prend 1500 points d'un seul coup. C'est quand même pas rien.
Non, mais d'accord, mais tous les deux ont quasiment le même parcours. Sauf que Nadal a gagné plus de fois ses tournois des grands chelems les dernières. Et Nadal est quand même mieux placé pour aller au bout à chaque fois.
Ouais, sur Terre, oui.
Il reste qu'on a...
Je te rappelle qu'il fait ça à Wimbledon et à l'US Open
aussi. Il reste qu'il y a quelques semaines, on disait Nadal, de toute manière, il va être numéro 1, il va être dominé, ça va être tranquille pour lui. Et on se rend compte quelques mois après que peut-être pas si tranquille que
oui,
ça.
Oui, mais c'est tout le temps pareil. Parce que tout d'un coup, t'as un coussin. Federer, c'était pareil à un moment. Il avait un coussin énorme. Serena Williams, elle avait un coussin énorme. Oh, ouais, mais rendez-vous compte, comme ça fond, ça fond, ça fond.
Federer l'a perdu.
Mais pas cette année-là. Pas cette année-là.
Il surfe sur la vague. Il est pas encore perdu.
Il va perdre quand il va avoir son coup de mou.
Mais là, on a quand même une possibilité d'avoir un beau duel toute la saison.
J'y crois pas deux secondes.
Ah bon?
Ah non.
Alors moi, je pense
aussi. De toute façon, après l'US Open, c'est potentiellement là qu'on saura.
Oui.
Puisque sur le dernier trimestre, c'est que de la roupie de Sansonnet qui traîne au niveau des Cisnel et quelques Masters 1000 qui traîneront.
Nadal a d'ailleurs déclaré que la seule place de numéro 1 qui comptait, c'était celle de fin d'année. Donc même s'il la perdait en cours d'année,
évidemment.
C'est celle en fin d'année qui compte. Mais
il est plus
j'ai envie de vous dire, et c'est peut-être aussi l'explication de pourquoi Federer continue à beaucoup jouer et à se dire très fort, c'est que Federer, il a quand même 2000 points à défendre, donc c'est à peine plus que Djokovic. Donc il a un vrai écart avec Nadal. Et Federer, moi, je ne m'enlèverai pas de l'idée qu'il veut faire cette semaine supplémentaire pour battre le record de Sampras, peu importe le moment où il la fera. Et je pense que lui, en revanche, récupérer la place du numéro 1, même une semaine, c'est son objectif.
Il n'est pas prêt de la récupérer.
Il n'est pas prêt de la récupérer. Pourquoi pas?
Dans le jeu, c'est pas possible. Si les autres se pètent pas,
il a 2000 points à défendre. Nadal en a 7500.
Oui, mais si Nadal reste à ce rythme-là et que Djoko reste à ce rythme-là, Federer repassera jamais devant.
Ouais, mais il est là.
Il peut pas gagner un Masters 1000 sur terre battue.
Pourquoi?
C'est impossible.
On verra.
À moins d'un accident des deux autres. Mais encore une fois, voilà.
Même si un accident des deux autres, il perd contre Ferrer, il perdra contre.
Il perdra.
Il est pas sur terre battue, il est pas.
Mais vous parlez d'un mec qui est cuit là.
Je suis pro Federer, je devrais être le premier à te le vendre, mais je ne peux pas le vendre, il est invendable.
Contre qui il perd cette saison finalement?
Bah contre Djokovic, mais ça n'a rien à voir, on n'a pas joué sur terre battue. Là on joue sur une surface qui est potentiellement sa meilleure. Il était indestructible.
Sur un tournoi, si tu lui enlèves Rafa, Despat et Djoko, moi je suis pas sûr qu'il puisse pas aller en
Si t'enlèves tout le tableau, qu'il est tout seul, il va remporter le tournoi.
Comme ça qu'il avait gagné Roland.
Il a quasiment pas de marge, donc de toute façon il va avoir des premiers tours, des deuxièmes tours, des troisièmes tours très compliqués. Physiquement, il va être obligé de piocher, donc sa première balle va moins bien passer.
Vous êtes noir, le tableau est noir.
Mais Federer, j'y crois pas.
À Wimbledon, oui, mais au pire, enfin quelque part à l'US Open. Mais on va pas parler de Federer sur terre.
Non. D'accord. C'est no way.
No way.
No way.
No way.
No way.
No way.
Bon. On verra.
C'est no way, hein. On verra.
On n'est pas encore sur terre.
Un petit peu de marge pour Carole.
Vaut mieux. Heureusement. Sinon, ce serait pas drôle si on était tous d'accord.
Si on peut faire juste une aparté, il y en a un pour qui je me fais pas mal de soucis, c'est pour Murray quand même.
Il va sortir, sa crise, tous les ans, c'est pareil.
Alors,
à chaque fois qu'il perd, l'année dernière c'était pareil, il perd Melbourne et derrière il nous fait une déprime pendant 2 mois. Et
on a eu des nouvelles de Murray qui a dit qu'il avait très très bien bossé, qu'il avait changé plein de choses, qu'il gardait secrète dans son jeu, qu'on allait revoir un nouveau Murray.
L'amorti rétro.
Honnêtement, on va lui laisser le. Il va revenir.
Le bénéfice du doute tant qu'on l'a pas revu.
Typiquement dans la tête lui.
On connaît pas ces mecs-là. Tu vois, moi, c'est.
Il a été décroché en tout cas.
Je trouve ça intéressant ce que dit Del Potro. C'est un mec qui déteste parler aux médias. Je peux te dire qu'il faut lui courir aux fesses avant de l'avoir, celui-là. Et il ne parle en général que quand il y a des obligations de l'ATP. Et Del Potro a quand même réussi, quand t'arrives à lui poser des questions, à dire que ce mec-là a souffert, mais véritablement souffert, de ne pas pouvoir jouer sur le circuit l'année dernière. Pas parce qu'il était blessé, bien sûr il était blessé, il le savait, mais de ne pas avoir ce parfum des tournois, le parfum des victoires. Et tu te rends compte qu'il y a des joueurs qui potentiellement vont se détruire pour retrouver ça, parce que ça leur manque, c'est leur vie quoi. Apparemment Del Potro, sa vie c'est ça, c'est d'être sur un court de tennis pour taper dans la balle. Moi je connais pas la vie de Murray. Est-ce que Murray est motivé à 300% autant qu'un Del Potro pour retrouver ou rester au plus haut niveau? Je connais pas ce gars-là.
C'est vrai qu'on peut se poser quelques questions sur Andy Murray, mais...
Le mystère Murray.
Moi, je pense quand même qu'il avait fait beaucoup d'efforts pour se rapprocher des tout meilleurs, qu'il a senti qu'il était tout prêt. Il a eu ses 3 échecs en finale de Grand Chelem. Ça m'étonnerait qu'il renonce.
Il fait pas vibrer, quoi.
Il fait pas vibrer.
Oh, ça te... Ça dépend. Ça dépend.
Ouais, non, mais après.
Il a un exceptionnel, ce garçon.
Peut-être que voilà, il va arriver dans 3 ans. Ça, c'est comme Gasquet, tu vois.
Oh, on ne compare pas Murray à Gasquet.
Mais si, parce qu'on est très rapide dans le désingage
le
et dans
top 5, hein.
Les mecs sont absolus. On a désingué Gasquet, là il fait une demi-finale, ça y est.
Ah, Richard is back.
Mais en France, on a tellement plus rien à quoi se raccrocher.
Non, Murray, il était top 5.
Attendons,
fois
attendons,
de Grand Chelem,
3, 4 tournois.
Il a fait demi, il a fait quart.
Attendons de voir. Oui, il a demi à Dubaï. J'attends de voir Richard sur Terre, je pense qu'il peut nous faire quelques petits trucs. Oui. On se retrouve pour parler d'El Potro et des filles, bien sûr, dans la deuxième partie de Miami aussi, avec le tableau qu'on va un peu vous expliquer.
RTL l'équipe.
Croisé, courte, gagnant.
Clément Tennis.
Superbe attaque de coup droit.
Eric Silvestro.
La deuxième partie de Carrément Tennis consacrée bien sûr cette semaine aux deux Master 1000 américains sur ciment. Indian Wells s'est terminé, Miami débute. On a beaucoup évoqué bien sûr le triumvirat Djokovic, Nadal, Federer dans le désordre. Je voudrais qu'on parle dans cette deuxième partie du retour de Juan Martín Del Potro au premier plan et que l'on se projette donc sur le tournoi de Miami avec notamment les chances françaises, le retour de Joe Wilfried Tsonga. Dans quel état est-il? Est-ce que Gasquet peut confirmer? Toujours pas de nouvelles de Gaël Monfils pour l'instant, toujours blessé au poignet. Tiens, ça nous rappelle un petit Del Potro, on lui souhaite moins de temps de récupération. Et puis les filles, bien sûr, Marion Bartoli, finaliste à Indian Wells, qui réintègre le top 10, et puis Caroline Wozniacki, la numéro 1 mondiale, qui confirme son statut puisqu'elle a gagné le tournoi d'Indian Wells et elle a offert des fleurs. Tiens, Caroline Wozniacki, on va en parler aussi. C'est un auditeur qui m'a envoyé un petit message pour voir la vidéo, j'ai trouvé ça très sympa, je vous en dis pas plus si vous ne l'avez pas vu. Et puis Razzano a battu Cornet, coup d'arrêt pour Alizé Cornet qui était de retour, on va dire, à un niveau correct ces dernières semaines.
RTL l'équipe, Carrément Tennis.
Toujours avec nos anciens joueurs et joueuses, Julien Varlet et Émile Lillois, Carole Bouchard de l'équipe.fr et Monsieur Orange Juice, Benoît Mélin d'Orange Sport qui vous diffuse tous les tournois Master 1000.
Miami samedi soir, enfin samedi 16h, 16h, 16h.
Non, je dirais pas.
Oh, le mec se fait une espèce de pub,
promo,
c'est hallucinant.
All night long, all night long, on rate rien.
Si, vous avez raté les demi de Indian Wells en direct.
Pourquoi ça?
Ah, parce qu'il y avait du foot allemand, monsieur. J'ai fait une crise de nerfs.
Orange, j'ai remis transmettre la Bundesliga.
On passe sur Orange Sport Event. C'est gratuit. C'est gratuit sur la box.
Ah bah personne devait être au courant et personne connaît cette chaîne.
Ah bah qu'est-ce que je te dise.
Moi, je ne vous cache pas, Benoît. Je ne vous cache pas que je n'ai pas Orange, mais j'ai réussi à voir quand même les.
C'est le canal 98
en streaming.
Benoît, c'est la solution.
Il travaille pas pour l'audience, Benoît, il travaille pour lui. Parce qu'il s'en fout qu'on regarde sa télé.
Mais l'audience, on s'en fout de l'audience. Qui est une personne ou 10 milliards, c'est le même boulot.
J'ai jamais dit ça.
J'avoue que le Marseille PSG était tellement nul que heureusement qu'en streaming, j'avais en même temps Nadal Djoko, c'était bien plus intéressant.
Il y avait ça, et puis il y avait. Sur Orange Sport, ils avaient mis aussi Klitschko, ils avaient le championnat du monde.
C'est dur.
Si tu veux, après.
C'est Nadal
compliqué.
Delpo et Djoko Federer.
Voilà. Bon alors Del Potro, le géant de Tandil, 485e au début de l'année. Bon, on se doutait bien qu'il allait grimper très vite, mais 51e.
Ah,
il vient d'enchaîner les demi-finales, les finales et les titres. Demi à San José, demi à Memphis, victoire à Delray Beach, demi-finale à Indian Wells.
Et physiquement, il tient.
Il ne perd plus que contre les joueurs du top 10. Tous les autres, il les bat. Il est là, le garçon. Hein. Je pense que dans le top 10, dans 3 mois, hein, même pas.
Ouais, moi, je l'ai annoncé au Masters.
Ouais, c'est vrai.
Ah, mais la seule interrogation.
Je vous suis sur ce coup-là.
La seule interrogation, c'est pas son jeu,
Qu'est-ce que tu l'as annoncé au Master, ça veut dire quoi?
Bah, il sera dans les 8.
D'accord, je croyais que t'avais dit au Master
qu'il
allait rentrer.
Moi, j'avais rien compris.
Non, mais c'est bien que vous soyez précis quand même.
Oh là là.
J'annonce que Del Potro sera dans les 8 pour jouer le Master cette année.
Voilà. Ça, c'est
clair. Mais ce qui m'inquiète un petit peu, il joue très très bien. La saison sur terre va être aussi intéressante parce que son histoire de poignet, vu qu'il faut gratter un peu plus, utiliser plus les poignets. On sait jamais. S'il accumule pas mal de matchs, j'espère qu'il aura pas de soucis.
Mais c'est la seule interrogation.
Apparemment, pas de résurgence de douleur, pas de soucis pour l'instant.
Non, mais manière, c'est la seule interrogation parce que dans le jeu, il est le coup droit par une vitesse, la balle est d'une lourdeur, c'est hallucinant. Mentalement, c'est un garçon, moi, je trouve admirable. Il se bat vraiment sur chaque point. Je pense qu'avec Nadal, c'est peut-être un des mecs qui a le plus fort mental sur le circuit. Donc, mais
c'est ce que dit Mats Wilander. Bon, il dit pas toujours que des choses intelligentes, Mats Wilander.
On va peut-être pas le comparer à Tsonga, mais c'est aussi un joueur qui est un peu en cristal, quoi. Donc, pour moi, c'est la seule interrogation. Est-ce qu'il peut, beaucoup depuis le début, est-ce qu'il va tenir?
Oh mais là, il a la fin du mec qui a plus joué depuis longtemps, c'est normal qu'il joue beaucoup.
Puis là, il a retrouvé son niveau. Là.
Il va ralentir.
Non, il est fort. Hein.
Moi, il a demandé une wildcard une wildcard à Monte Carlo.
Il fait peur à tout le monde.
Et il y sera bien sûr.
Bah, après, tu te rends compte que normalement, quand t'as un classement protégé comme ça, t'en as besoin. Quoi. Et tu te rends compte que le Pépère, lui, son classement protégé s'arrêtera début mai. sur les 9 tournois, le mec il sera là quoi. Ouais. Enfin tu vois, il en a déjà plus besoin.
Donc
plus
tu réponds à une petite interrogation que j'avais la semaine passée, c'est que le souci va arriver sur terre battue, il sera pas tête de série et là c'est là où ça peut être un peu plus dur pour essayer d'aller loin dans les tableaux.
Est-ce qu'il va faire
mais Roland, il sera tête de série.
Il aura son classement protégé ou pas?
Mais Roland, il sera rentré dans les 32, tu rêves?
Bah, tout dépend de ses résultats.
Bah, non,
attends, ça arrive vite.
C'est 4 ou 6 semaines.
C'est 6 semaines avant.
4 ou 6 semaines, c'est pour les entries, c'est pas pour les têtes de série. Hein.
Ah bah,
Non.
Les 6 semaines avant, c'est pour savoir si tu rentres dans le tableau ou pas. Les têtes de série sont désignées au classement au moment du tournoi.
Au moment du tirage,
on voit Miami avec Federer qui est 3.
Ah, comme je vous ai.
Non, mais moi. Non mais vous le voyez tête de série à Roland?
Ah oui, moi je le vois dans les 32 à Roland.
C'est possible,
il a pas de point à défendre.
Attends, il y a 3 Master 1000 hein, d'ici Roland.
Il lui faut quoi? Il lui faut un quart, une demi, même pas dans un des...
Tu rigoles, Ivan.
Ouais, ça suffira.
Ah ouais, je pense.
Parce qu'il faut quand même pas mal... Il y a pas mal de... Il est 51ème.
Il est 51, il a 20 places à... Ouais.
Après, parce que là, tu te rends compte que...
Après, il faut quand même qu'il joue...
Oui, il faut du point là.
Ça dépend des autres aussi.
Il va falloir qu'il joue correctement. Mais d'ici Roland, il a quand même 4 Master 1000 parce qu'il faut rajouter Miami aussi. Donc t'as Miami, Monte Carlo, Rome et Madrid. Donc si le gars, après, ouais, je suis sûr que s'il fait pas de résultat sur terre, il sera pas tête de série.
Mais
s'il continue à plutôt bien jouer et avoir un niveau, on va dire quart demi, il sera tête de série.
C'est jouable.
Fait peur pour lui quand même. Hein.
Bah oui, bah,
disons qu'à Miami, je le vois bien. Après, sur terre, comme l'a dit Julien, au niveau des articulations du bras, au niveau de l'épaule, les balles sont plus lourdes. Le jeu est plus lourd.
Ça va dépendre des tirages au sort aussi, pour le coup. Parce que sur terre, il peut se faire aussi un ou deux mauvais tirages au sort contre un bon espingouin dès le début ou dès le deuxième tour. Voilà.
Mais bon, déjà il est revenu. Hein. Ouais, en janvier, on disait dans 6 mois, peut-être qu'on le reverra. Le gars, il est déjà là. Quoi.
L'attitude du mec est bien. Il bat Ljubicic au premier tour. J'ai trouvé ça super parce qu'il a dit après. Le mec, rien à dire quoi. Tu vois, alors déjà, Ljubi, c'est quand même grand monsieur en général en conférence de presse.
En pleine crise,
hein, Ljubi.
Il joue blessé, je crois.
Il est fini, Del Potro.
Ljubi, il s'est blessé à Indiana Wells et il joue dessus. Donc.
Il s'est blessé à Dubaï.
Ouais. On attendait un Ljubicic Gasquet avec Piatti dans le box au deuxième tour à Miami, mais ce sera Lorenzi, un qualifié italien, qui a battu Ljubi.
Non, mais il est blessé. Et Del Potro qui dit après, voilà, moi, c'est une des victoires les plus importantes de ma carrière. Quand il bat Ljubicic au premier tour à Indiana Wells, tu dis pépère, là, t'es. T'as bu de l'alcool ou quoi?
T'as gagné un grand chelem.
Mais en fait, il dit non, mais je connais la vie d'Ivan, je sais ce qu'il a traversé, je sais ce qu'il a vécu, c'était sa plus belle victoire de sa carrière. Il rentre sur le court, il joue contre moi, bon, match dangereux, et on, voilà, bagarre encore une fois. Je me souviens d'un match comme ça au premier tour aussi à Monte Carlo, qu'ils avaient fini au fin fond de la nuit, personne ne regardait, il faisait frais, il faisait froid. Et bah, pareil, quoi, Del Potro, il gagne et il avait les boules. Il avait les boules d'avoir battu Ljubicic parce qu'il disait j'ai pas le droit de faire ça, c'est un monsieur.
C'est un monsieur. Oh mais okay. La plus belle façon de respecter son adversaire, c'est de le battre en jouant son meilleur niveau.
Ouais, c'est un bon gars. Tu sens qu'il a faim, tu le vois s'entraîner, il a fond.
Il est heureux d'être là. Ouais. C'est bien aussi.
Content de le retrouver. On se projette sur Miami avec le tableau. Rapide coup d'œil. Nadal et Federer donc dans la même partie de tableau, celle d'en haut. Ferrer, Djokovic et Murray avec Soderling de l'autre côté.
Djoko Murray en quart.
Ça va changer un petit peu la donne.
C'est
Djoko Murray en quart.
Voilà, on va loin, mais c'est par rapport aux petits français. Ça va être compliqué, quoi.
Alors, dans les petits français, un petit Gasquet encore. Attends, Gasquet a un bon petit tableau là.
Gasquet n'a pas à confirmer. Gasquet, c'est très bien, joue très bien.
Gasquet, maintenant, si, il doit confirmer justement. C'est-à-dire que là,
laissez-le tranquille. Toutes les semaines, j'arrête pas de le dire.
C'est vrai, parce que
on te demande pas qu'il gagne le tournoi, mais Julien,
si,
alors pour moi, c'est pas du tout une question de confirmation, c'est qu'il joue bien.
Il est top 20,
donc s'il joue bien sur ce tournoi-là,
il a confirmé d'être au moins face à Soderling ou Del Potro, c'est-à-dire battre Lorenzi et battre Fish ou Bento. C'est
la bonne forme du moment. Allez, on va dire, on te l'accorde.
Moi, pour l'instant, je n'accorde
aucun crédit
à ses résultats pour l'instant, je vais dire. Dubaï se fait dans l'urgence, un peu bizarre, il est tout seul, il n'a pas de coach.
Oh, il est avec Maryse.
Maryse lui préparait le petit déjeuner. Mais voilà, il bat pas des grands joueurs, il réussit à battre Simon, ça c'était un beau match. Il perd contre Federer, rien à dire, c'est très bien, demi. Après, il arrive à Indian Wells. Il y a Piatti, il y a Grosjean, tout le monde est là. C'est le nouvelle aventure, nouveau départ, nouveau dialogue. Tu les vois à l'entraînement, ils ont la pêche, ils ont le sourire, tout va bien. Ils gagnent, il arrive en quart, c'est du bonheur. Après, voyons voir. Parce que là, on va rentrer dans le rouge.
Mais ok, mais on va rentrer dans le rouge. Mais quand on regarde ses résultats, déjà, c'est quand même bien meilleur. Mais c'est sa bien. Manière de jouer.
Exactement.
C'est quand même c'est une petite révolution. Alors, effectivement, est-ce que ça va durer dans le temps, ça, on n'en sait rien. Mais c'est quand même intéressant ce qu'il développe.
Ah oui.
Ce qu'il essaye de développer.
Ça
non
nous, c'est bien sûr. Mieux que
non, d'habitude, c'est il est de mettre derrière. Il est là, il fait ses trucs, il fait un coup de génie une fois de temps en temps. Putain, là, il y a une réelle
et
démarche.
Et moi, je dis que. Ou tu me parles de quel match, là?
Pas celui de Djoko.
Bah, tous les matchs, quand tu changes et que tu essayes de faire évoluer ton jeu, sur tous les matchs, tu vas pas être performant.
Et ben moi, je te rappelle qu'il bat Melzer. Melzer ne joue pas. Ok?
Bah, vous refaites le truc à
ah bah, non, mais non, 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 mais.
Ouais,
non, mais bon. C'est le côté crédit.
Ah,
ou
il
pas
fait demi à Dubaï, il joue que des quiches, il fait qui la semaine dernière, il joue des fantômes, attends, l'autre il joue pas.
Bah, ouais, mais à un moment,
bah, mais il joue
faut
pas,
rentrer
le
dans
mec
le détail.
Bah,
Benoît,
parce que c'est bah, tu vas pas refaire le détail, le mec il fait demi à Dubaï,
mais regarde, mais attends, si tu regardes, il y a des résultats qui ne veulent rien dire.
Attends, mais il les avait pas.
Attends, mais les mecs, ils étaient quand même en face contre lui sur le terrain, tu vois, c'est un peu dur quand même.
Vous l'avez vu le match contre Melzer? Melzer ne joue
mais attends,
pas.
Attends, mais c'est un match. Mais attends,
Melzer
mais c'est
ne
de
joue pas contre Benito. Il arrive
pas
à s'en
attends
sortir.
Et
on sait pas comment.
Rodic, le match contre
excuse-moi,
Rodic
mais Rodic
bon
du fond du cours, effectivement, t'as pas besoin mais d'être attends, 2 mètres derrière la ligne de fond de cours.
Oh bah ouais.
Il fallait relancer.
Ça n'a rien. Rodic du fond du cours, c'est quand même pas Djokovic. Excusez-moi.
Je suis d'accord.
Mais on lui demande pas de battre Djokovic. On lui demande de revenir à un niveau sympa.
Tu me parles de l'attitude et tu me dis que le mec, il est plus de 2 mètres derrière sa ligne de fond de cours. Eh ben, je suis pas d'accord. Sur l'ensemble du tournoi, il est 2 mètres derrière sa ligne de fond de cours, sauf contre Rodic.
Quand tu essayes, je l'ai vu jouer à Dubaï, quand tu essayes de mettre un style de jeu en place, tu vas pas le mettre toutes les semaines. C'est pas possible. Tu vas pas y arriver. C'est avec le temps que ça se fait.
Mais moi je l'ai pas vu.
Alors, contre Rodic,
bah,
il fait un
désolée,
beau match.
Ça se voit,
contre Rodic, bien sûr, Rodic, il y a rien qui part de sa raquette.
Ah, mais y a, oui, mais il y a encore quelques mois, il l'aurait peut-être perdu ce
mais
match-là.
Oui, oui, mais
alors que là,
ça,
il a
dingue.
Dingue.
Vous savez ce qui me fait plaisir?
D'accord.
C'est que c'est déjà, par rapport
on reparle de Richard.
Exactement, et surtout, on en reparle avec passion, enthousiasme, désaccord.
Ouais, non, mais là, c'est Emilia, les hormones qui.
Et ça, c'est un bon signe.
Mais là, je suis pas d'accord, mais attends. Le type, non, mais à un moment donné, faut arrêter. Il fait que des premiers tours.
On
le fracasse.
Mais non, mais le mec est top 20 là.
Etc. Sur... Là, il est top 20. Il a des résultats qui sont plus que sympas. Et on dit, attends, il joue que des quiches. Mais attendez, mais allez-vous sur le terrain. Hey,
je t'ai pas dit qu'il avait joué que des quiches.
Incroyable.
Je t'avais dit que pour l'instant, vous êtes en train de dire que ça y est, le mec, il est plus de mètres derrière sa ligne de fond de cours et il bat tout le monde.
Mais j'ai pas dit ça. Mais j'ai pas dit ça.
24 mars, midi 14. J'annonce. Gasquet top 10 à la fin de l'année.
Non.
Pourquoi le 24 mars
et là, parce que c'est aujourd'hui.
Ah, parce que c'est aujourd'hui.
Oh la vache.
Non, par contre, là, tu vas fort.
Que quoi
top 10 à la fin de l'année.
Tu l'as vu le match contre Djokovic.
Et la cerise sur le gâteau.
Non, mais il est fou.
Peut-être mettre au match.
Non, mais
peut-être même au Masters.
Il sera encore dans le top 20, mais top 10, t'as vu le match face à Djokovic.
Pourquoi pas.
Il a la caisse sur 4, sur 3 jeux à chaque fois.
Moi, je prends les paris.
Moi, je dis top 15.
Quand tu vois que mon fils est 11e sans jouer, pourquoi pas.
Ah, bah oui, mais il va pas rester longtemps.
Voilà, tout de suite, tu le vois au Masters. Tu le feras
non, non.
Top 15, tu le vois au Masters.
Ah, ben moi, Gasquet, si un joueur français qui peut gagner un grand chelem, pour moi, c'est Gasquet.
Ah non.
Pas faux.
Non, non.
Mais je sais pas quand.
Raison.
Après, non, le problème, c'est quand.
Je suis d'accord avec vous.
Physiquement,
un petit mot sur
Tsonga,
qui revient aussi après son bon match à Noël.
Personnellement, je sais plus du tout
où
on est. Je vais
votre envoyé spécial là, qui le suit partout.
Qui a pardon,
Tsonga, il va comment?
Il va pas bien, il va pas bien, il va pas bien.
Non, mais surtout qu'en plus, là, il a un match, c'est un match piège contre Brands ou. S'il joue Brands ou.
Il n'aime pas les grands serveurs.
Un mec chiant.
C'est, il n'aura plus que des mecs chiants.
C'était assez étonnant à Indian Wells, en tout cas, parce qu'il est resté là-bas.
Ouais.
Il est resté là-bas toute la semaine.
Et
comme
il a
la plupart des joueurs, de toute façon. Et Stéphane Florissien, qui suit tous les tournois pour nous, est allé le voir, bien évidemment, avec la cam et tout. Et beaucoup de monde à l'entraînement de Tsonga est super apprécié aux États-Unis, le côté showman,
oui.
Grosse pêche au service et tout ça. Et il sort du cours et Stéphane Florissien va le voir, il dit ah, la star et tout, tu veux bien nous répondre? Il dit t'as raison, la star, je me suis fait sécher au premier tour, t'as raison, je suis vraiment une star. Et il a pas arrêté de l'embêter avec, ouais, très bien, très très
bonne
bien.
Réponse.
Et il a pas arrêté de l'embêter en disant ouais mais t'es une star, regarde le monde. Il dit non mais arrête de dire ça, je suis pas une star, je suis une merde et tout. Et il a pas arrêté. Mais bon, encore une fois, quand tu vois Vinogradski, que tu parles avec Vinogradski, et ben ils ont pas le sourire les petits pépères.
Mais alors d'où ça vient? Parce que
ils sont inquiets.
Oui mais voilà, mais c'est quand même bizarre, il est revenu de blessure. Alors il y en a une. On nous a dit que c'était pas grand chose finalement à Melbourne, c'est devenu une hernie. Et là, on dirait que c'est l'état d'urgence, que c'est une catastrophe.
Non, mais c'est tout, je pense que c'est tout le corps qui souffre.
C'est pas une urgence, c'est une épée de Damoclès qui est apparemment très très lourde sur le fil. Bah non, plus maintenant. Le genou, le genou ne dira pas
voilà,
oui
ça.
Une deuxième fois.
C'est
ah,
ça.
Les problèmes physiques de nos petits Français. Le dernier joueur qu'on évoque, comme ça on l'écoute, après on passe aux filles, c'est Jérémy Chardy, le héros de la Coupe Davis du premier tour contre l'Autriche.
Qui s'est flingué les abdos à Indian. Indian Wells.
Voilà, qui s'est flingué les côtes et les abdos à Indian Wells. Il revient, il joue Nishikori au premier tour avec peut-être Nadal. Ouais, derrière.
Il faudrait déjà passer Nishikori. Hein.
Ça serait sympa, Nishikori. Attention, ça peut être.
Moi, j'aime bien lui. Quoi, très bon joueur.
Il passera pas sur Nishikori.
Ah, très bon joueur.
Je suis d'accord. Je
mais franchement, ce garçon, enfin, le japonais, il a. J'aime beaucoup ce joueur-là parce qu'il est brillant, il a pas énorme puissance. Mais qu'est-ce qu'il est doué, le garçon, quoi.
Allez, écoutez-le quand même, Jérémy Chardy, parce que c'est de la bonne gouaille. Au micro de Myrtille Rambion, justement, sur ce tirage au sort, son retour d'abord à Miami après sa petite blessure à Indian Wells et puis cet éventuel deuxième tour contre Nadal.
Physiquement, je me sens bien. Coup droit revers, j'ai pu m'entraîner normalement, donc je me sens en forme. Donc j'espère que ça se passera bien sur le court. C'est toujours difficile un premier tour, quoi qu'il arrive. Bah, c'est un nouveau tournoi qui commence, donc il faut reprendre des repères. Mais bon, je tape vraiment bien la balle. Donc j'espère que quand je commencerai à jouer, je me sentirai aussi bien. Et après, c'est un bon joueur, donc il faudra que je joue très bien pour gagner.
La question qui tue, vous avez regardé un petit peu plus loin le tableau ou pas du tout?
Bah, normalement, je ne regarde pas du tout le tableau. Quand j'ai voulu regarder si je jouais jeudi ou vendredi, sur la première ligne, j'étais bien obligé de me chercher. Et comme j'étais vraiment tout en haut, c'était dur de ne pas voir mon tableau, donc oui, pour une fois je l'ai regardé.
Et alors?
Parce
que c'est Nadal, hein.
Oui, je sais que c'est lui. Déjà, j'espère que ça se passera bien au premier tour, et c'est vraiment une bonne expérience. C'est les deux seuls que j'ai pas joué, Nadal et Federer, donc voilà, j'espère que je pourrai l'affronter. Et on apprend toujours des choses dans ces matchs comme ça, donc j'espère que je me livrerai à fond et que je prendrai ma chance à fond, parce que c'est la seule chance pour pouvoir faire quelque chose.
Like this. RTL équipe, carrément tennis.
Jérémy Chardy au micro de Myrtille Rambion. Passons aux filles, les enfants. Indian Wells, Miami. D'abord revenir sur cette très très belle finale de Marion Bartoli face à Caroline Wozniacki. Elle n'est même pas passée loin de l'emporter puisqu'elle a emmené la Danoise quand même en 3-7. Super tournoi de Marion qui fait son retour dans le top 10. C'était pas loin la semaine dernière. J'avais dit Bartoli, Djoko.
C'était pas loin. Non, mais Marion, c'est
pas sûr. Vous aviez dit Djoko.
Djoko, ouais.
On peut dire que Marion, elle a bien joué ou pas, ou...
Oui, là on a le droit. Mais Marion, elle fait une super semaine.
Elle arrive en finale. Attends, elle joue Clay Charles en huitième carrette.
Mais derrière, elle. Non, mais voilà. Non, mais il y a eu ce coup du sort. Non, mais c'est vrai. Il y a eu ce coup du sort. Et derrière, elle fait. Franchement, contre Ivanovic, c'était un super match. Contre Vic Mayer, ouais, elle joue bien. Et sa finale, elle prend 1-1 à Doha.
Bah ouais, mais
avant.
Là, c'est exactement la même chose que disait Benoît sur Richard Gasquet tout à l'heure.
Comment tu peux dire que le match contre Ivanovic était beau?
Non, je me dis qu'il était beau.
Mais
qu'elle
base,
s'est battue,
elle a
fait
gagné,
un
donc
super
elles n'ont pas gagné leur jeu de service sur l'intégralité du match.
Je t'ai pas dit que c'était un beau match. Je dis qu'elle s'est battue dans l'attitude. Moi, je l'ai trouvé fantastique sur ce match-là.
Ah ouais, mais là, à la rigueur, si tu
et
leur
Vic
fous
Mayer,
pas 30 suppositoires, il y en a pas une qui se décoince. C'est hallucinant le match.
La demi contre Vic Mayer, il était pas beau son match contre Vic Mayer. Elle l'a joué en patronne.
Là, je suis d'accord.
Elle l'a joué en patronne.
Mais me parle pas d'Ivanovic.
Dans l'attitude, je te disais pour Ivanovic. Et la finale.
Mais la finale quand même.
La finale, elle fait elle prend 1-1 la semaine d'avant à Doha contre cette fille-là. Dans le premier set, c'est rebelote et dans la tronche, elle a été la chercher. Moi, j'ai trouvé ça franchement fantastique.
Bon, mais je comprends pas. Moi, elle arrive en finale, elle fait pas 5 matchs comme elle a fait 5 matchs, 6 matchs, 5 matchs, 5 matchs de grande qualité. Franchement, c'est moyen, quoi.
Second degré des Mililois.
Non, mais.
Attends, c'est moyen, quoi. Attends, face à Ivanovic, effectivement, le match était nul, mais. Putain, mais gagner en jouant mal, attends, mais.
Exactement.
C'est vrai, c'est vrai. Oui, mais c'est
pour ça que je dis qu'elle était fantastique.
Gagner en jouant bien, elle joue bien et sur son nuage face à Vic Mayer.
Non, mais t'as raison de nous replacer. Nous n'avons jamais été sur le court, alors que c'est facile sur nos fauteuils pour les décaliers.
Sur une saison, logiquement, sur une saison, tu vas jouer peut-être, on va dire, 80 matchs sur les 80, tu vas en jouer 5 où tu vas très bien jouer, le reste du temps, c'est bataillé. Donc. Perso, moi, je prenais plus de pieds à gagner en jouant mal parce que tu vas chercher, tu vas dans tes réserves qu'en jouant bien, c'est trop facile. Après, c'est vrai que le niveau de jeu sur certains matchs n'était pas énorme, mais en fait, elle a le don de gagner, elle en finale. Voilà, c'est la base. Sur le papier, elle aura gagné ses matchs.
Oui, puis...
voilà, c'est
et
tout.
Moi, franchement, encore une fois, moi, je l'ai trouvé, mais alors que des fois, elle peut trouver une blessure aussi, être pas bien dans l'attitude. Moi, je l'ai trouvé du début à la fin de sa semaine, mais rien à dire.
T'es bien.
Ouais. Incroyable.
Parce qu'elle est pénible, hein, d'habitude, à regarder.
Oui,
elle est insupportable, elle fait le coup de la blessure, etc. Là, je trouve que c'était pas mal. Et physiquement, alors, elle a progressé aussi.
Ah, moi, je suis assez épatée, hein, parce que contre Wozniacki, je me suis dit, mais elle va exploser, ça va être un cauchemar, même contre Ivanovic ou les autres. Et non.
Mais après, tu vois, je pense malheureusement qu'elle part avec tellement de handicap, cette pauvre Marion.
Mais justement.
Que même si elle fait le grand chelem sur l'année, je crois que quand même, on dira que c'est nul.
Oui, mais parce que les gens sont bêtes.
Je sais pas.
Mais parce
je
que les gens sont bêtes.
Et elle est pas.
Tennis,
elle,
c'est vrai qu'il fait
et
pas.
Et elle est pas.
Puis il y a Capital Sympathie qui fait
tu,
que.
Voilà, tu. Enfin. Là, en conférence de presse, il l'attaquait un petit peu, tu vois, en disant « Mais pourquoi vous faites ces gestes à vide? C'est ridicule, ça énerve, ça agace. » Et à un moment, c'est vrai qu'elle a pris la mouche.
Bah, elle a raison, il y a qu'elle qu'on dit ça.
Mais elle le fait pas. Alors qu'elle est supra-intelligente, et elle l'a annoncé elle-même. Elle a fait un test de QI, elle avait 9 ans. Et elle était au-dessus d'Einstein, moins de Kasparov, mais elle avait un QI plus élevé qu'Einstein.
Mais comment tu peux sortir un truc?
Et là, bien évidemment, tout le monde l'écoute en lui disant ouais. Et alors?
Dis-nous des trucs intelligents.
Oui, ça c'est Marion.
Et Marion, tout de suite, c'est tu l'attaques, bam, elle sort les dents de piranha, elle se ferme et s'en va.
Mais
terminé.
Malheureusement,
et
comment elle peut sortir un truc?
Oui, mais elle a quand même raison de dire même quand elle gagne, on l'attaque. C'est-à-dire qu'on attaque tout le temps.
Ah ouais.
Bon, elle fait tout quand même pour se faire attaquer là sur son truc de QI qu'elle a dû passer. Qu'elle avait... Excuse-moi, c'est pas une question d'intelligence que de sortir un QI au-delà d'Einstein. C'est une connerie.
Mais ça, c'est Marion. Et je veux dire que malheureusement, j'ai l'impression moi que c'est en entretenant genre le truc, elle se met elle-même dans une parano et c'est comme ça qu'elle y arrive.
Elle parle après... de son père, mon père, il faisait échecs.
C'est terrible parce que tu te rends compte qu'elle a. Qui aime bien Marion Bartoli?
Non mais c'est.
Tu n'es pas obligé de l'aimer pour reconnaître d'abord que c'est la meilleure française, qu'elle est dixième mondiale, qu'elle fait finale d'un tournoi majeur contre la numéro une, qu'elle est pas ridicule et qu'elle joue bien.
Oui, mais il va
après, t'es pas obligé de l'aimer. Hein.
Je pense que quelqu'un l'aimera quand elle aura 70 ans.
Oui, mais moi je préfère qu'on la déteste. Moi je préfère qu'on la déteste tous, mais qu'elle nous gagne un grand chelem quoi.
Voilà.
Et tout le monde se tape qu'elle a été finaliste à Wimbledon. Donc pourquoi si elle gagne un grand chelem,
tu préfères que ce soit Samantha Stosur qui gagne un grand chelem ou Marion Bartoli?
Sincèrement, j'aimerais bien qu'on fasse tiens, on fera ça à Roland Garros à la rigueur, pourquoi pas.
Ouais.
C'est faire un question-réponse dans les allées en disant quelle est la meilleure perf de Marion Bartoli dans un tournoi grand chelem.
Oui, mais on s'en fout à la limite de ça.
Attends la finale.
On s'en fout à la limite de ça.
Mais tout le monde s'en tape.
Non, mais si demain j'ai n'importe quel russe ou Stosur ou une autre, je préfère que ce soit Bartoli.
Oui, mais elle n'a parce pas que de t'es capital français sympathie.
Bah, j'étais ravi que ce soit Schiavone qui gagne l'année dernière parce que je suis
non,
italien.
Mais les amis, Golovin avait un énorme capital sympathie. On l'a perdu en route, n'a rien fait. Reza, tout le monde la détestait. Elle a gagné Madrid. Elle, c'était un génie. Bartoli, elle aura peut-être le même problème de dire qu'une Tosia ou les gens dans l'image l'aiment peut-être pas. À l'ennemi, je crois que maintenant, elle s'en fout. Elle joue pour elle.
Ah bah oui,
respectons son tennis. Quoi.
Ah bah là, vaut mieux. Vaut mieux parce que
sinon, elle tire une balle. Hein.
Alors, niveau personnalité, c'est vrai qu'elle est complètement. Et elle est pas comparable à qui que ce soit d'autre sur le circuit, elle est complètement à l'ouest.
Non, mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle termine en plus son match, elle va faire le bisou à son père.
Bah, c'est marrant.
Elle est différente.
Elle s'est construite comme
mais
ça. Elle
le problème, c'est qu'elle, en plus, elle est dans
elle entretient.
Style,
oui,
voilà, elle entretient.
Ouais, mais excuse-moi, est-ce que tu préfères une Marion Bartoli et son fonctionnement avec son père, qui certes est quand même très particulier, très spécial, tout ce que tu veux, ou une Aravan Reza qui dit qu'elle a besoin de se reconstruire, qui prend un nouvel entraîneur et qui, au bout de 3 jours, le dégage?
Ouais, mais attention, là, c'est différent. Marion, elle est restée toujours au contact de son père. Aravan essaye de couper le cordon avec son père.
Mais d'accord, mais alors pourquoi elle se sépare de Pierre Gauthier au bout de 3 jours?
Mais c'est pas du
tout. Mais c'est compliqué. C'est compliqué.
Ça marche pas.
Mais
comment tu peux juger si ça marche pas après 3 jours?
Marion, moi, 3 jours, moi je reste 3 jours avec toi, tu dégages vite. Hein.
Non, mais tu sais pourquoi? Mais tu sais pourquoi ça a pas marché? C'est parce que la famille était toujours là et que dans ces conditions-là, Gauthier il voulait pas travailler. Voilà, c'est tout.
Mais alors respectons, elle a peut-être un mode de fonctionnement bizarre, Bartoli, mais ça a
attends,
l'air.
Attends,
de...
moi je suis admirative. Ça
a l'air de marcher pour elle.
Mais
voilà.
Elle est régulière, c'est incroyable.
Mais attends, vu son. Physiquement, vu le boulot qu'elle lui prend par rapport à d'autres, c'est incroyable.
Ouais, non, mais après, ça, c'est comme tout. Que ce soit chez les garçons ou chez les filles, on préfère avoir un beau mec ou une belle nana, intelligente, sympa, qui sourit, qui fait des points gagnants et tout ça. Bah ouais, mais c'est pas le cas, donc maintenant, faut faire avec.
Avec des longues jambes.
Elle est quand même dans le top 15 depuis combien maintenant? 3-4 saisons, c'est incroyable.
Ça fait plus que ça.
La régularité
à la 26, ça fait au moins 5-6 ans.
Et alors, je rajoute à ton profil que tu viens d'écrire. Et si elle offre des fleurs en plus?
Oui, non, moi je préfère Bartoli au côté Elise de Wozniacki.
J'ai pas vu ce.
Vous avez pas vu?
Elle va vous faire des roses à
Bartoli. C'est Jean.
Oui, c'est quoi ton histoire?
C'est Jean, un fidèle auditeur de Carrément Tennis, qui hier m'a envoyé un petit mail en disant Eric, est-ce que vous avez vu Caroline Wozniacki qui drague un peu Novak Djokovic? La vidéo, il m'a envoyé le lien et tout. J'avoue, je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. Et il m'a dit, est-ce que vous allez en parler demain? Je dis, je vous promets, Jean, qu'on l'évoquera.
Mais que de quoi?
J'ai regardé la vidéo.
À l'entraînement.
Non, c'était à l'entraînement. T'as Djokovic qui est assis sur un banc au bord du court.
Indian Wells.
T'as Wozniacki qui arrive, petit short, machin, et qui offre une rose à Djokovic sur le court. Et qui, bon, après, ils s'embrassent, machin, tout ce que tu fais, ils s'embrassent, ils se font la bise, quoi. Et voilà, donc on dit, il dit le naissant ou pas, peut-être, Wozniacki Djokovic, là, Wozniacki qui drague Djokovic.
Je pense que la copine de Djokovic.
Ouais, tu regarderas la vidéo, je t'enverrai le lien, c'était
rigolo. Elle dragouille aussi John Isner, elle est jeune, Caro, elle s'amuse.
Ou John Isner, elle vise dans le. Le géant.
Mais bon, niveau tempérament,
il y a Karlovic qui revient.
Niveau tempérament, Wozniacki, est-ce qu'on y gagne?
En tout cas,
est-ce que Djoko, c'est un peu aussi, tu vois, le nouveau
patron? C'est pas nouveau.
Ouais, c'était un tombeur déjà, mais bon, là, carrément, la fille qui vient l'offrir des fleurs, tu vois. Tac.
numéro 1 mondial. Tu
comment,
vois,
tu, comment tu tentes de
non,
lancer
mais
un
c'est
dossier
pas une petite, c'est pas une petite fan qui arrive et qui veut un autographe.
Mais on connaît pas l'histoire. Il y a dans les allées de Indian Wells, il y a des roses. Il y a, se trouve, elle avait, voilà, il y a une connerie. Elle
non, il y a pas de rose. Hein.
Non, mais je sais pas.
Non, non, mais en plus, il y a le petit paquet autour et tout. C'est tout
mais si
tout
tu suivais
préparé,
sur
quoi.
Twitter, t'aurais vu que entre Wiesner et la Wozniacki.
Non, non, c'est, je pense que.
C'est pour la déconne.
Il y a une boutade là-dessous.
Ouais.
Ah bah sûrement, mais voilà, non mais Jean m'a envoyé le lien, donc j'ai dit
oui. Wozniacki est joueuse, hein, ça c'est sûr.
Wozniacki est joueuse et Joko n'est pas le dernier pour jouer. Ah. Baleine sous caillou.
Oui, ils sont joueurs.
Baleine sous
baleine
gravillon. Anguille sous gravillon.
Parlons de son titre à la Wozniacki.
Et Bartoli hein qui va peut-être jouer en Fed Cup.
Non, mais, alors... non mais on rigole. Mais...
Bah, chaque année elle l'a fait seule.
Oui, mais alors, non, il y a les jeux qui arrivent.
Mais c'est pour ça que je trouve ça bizarre.
C'est toujours pareil.
Mais ça serait bien enfin
non,
que ça arrive.
Mais, c'est pas
mais si. En
mais non, alors là, moi je peux te dire
en
que maintenant.
En on a Patrick Mouratoglou qui a droit d'aller dans les vestiaires pour voir Jérémy Chardy. Alors pourquoi pas Walter Bartoli dans les tribunes
de la Fed Cup. C'est pas le problème. C'est que Nicolas Escudé, il me semble, il y a quand même depuis un an, avait dit qu'il voulait même plus quasiment discuter. Donc moi, je, pour moi, c'est un petit renversement de situation.
Alors, mais moi, je peux te dire que si j'étais Nico Escudé, il faudrait qu'elle rentre l'année Suzanne Anglaine Sud jusqu'au CNE en rampant pour pouvoir venir jouer en Fed Cup, quoi.
Non, mais est-ce qu'il y a
un moment faut arrêter. Française,
ouais.
Je suis d'accord, mais
je te rappelle que les Françaises vont jouer en barrage en Espagne sur terre battue.
Il y avait 4 Françaises seulement dans le tableau à Indian Wells. 4 Françaises seulement dans le tableau. Je suis tout à fait d'accord. Mais il y a un moment, elle veut pas. C'est bon, maintenant on passe à autre chose.
Qui dicte tout, c'est le joueur. À partir du moment où le joueur a envie de faire quelque chose ou quoi que ce soit,
et
il
si
le fera.
Et si le joueur il a envie de faire les Jeux Olympiques,
est-ce qu'on
va faire la pige en Coupe Davis ou en Fed Cup?
Est-ce que justement, est-ce qu'on a entre guillemets le droit de la priver des Jeux Olympiques?
Qui ça?
Bartoli.
Bah oui.
Non.
Bah moi je suis.
La question, non mais la question se pose. Est-ce
mais
qu'on
bien
a le droit
sûr,
de la priver
elle représente
des
jamais
Olympiques
son pays. Elle a jamais voulu représenter son pays.
Ah mais moi je trouve qu'elle a jamais voulu représenter. À la limite, elle pourrait. Ce serait pas. Voilà, s'il lui dit non, tu joues pas.
Non mais à un moment, il faut aussi
mais
mettre
après,
les rancœurs.
Après voilà, faut qu'il se qualifie, faut rester en groupe mondial, c'est la numéro 1 française.
Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça.
Je suis d'accord, mais sans être vulgaire, tu vas pas non plus baisser ton froc à chaque fois, quoi.
Bah j'ai l'impression que c'est ce qu'ils
n'ont jamais fait.
Au contraire.
Non mais pour eux, ils peuvent le faire quand même à un moment donné.
Nicolas Escudé.
Elle a son fonctionnement avec son père.
Ils essayent.
Voilà, faut essayer.
Nicolas Escudé ne va pas baisser son froc, il va faire au contraire preuve d'ouverture et de dialogue pour sauver en plus la France dans le groupe mondial. Mais et il aurait été l'homme du consensus
en sachant qu'elle va jouer
au lieu d'être de l'homme de la descente.
Je suis quand même d'accord que chaque année, le cas Bartoli revient pour la Coupe Davis et chaque année, elle ne joue pas. On est quand même d'accord.
Je vous rappelle qu'il y a eu une sorte d'historique déjà avec Nathalie Tauzia sur ces histoires de Jeux Olympiques et il y en a une qui avait bien morflé.
Exactement.
Donc, quand ça arrive, ça arrive, et comme le dit Émilie, c'est
là, apparemment, la
c'est le joueur ou la joueuse qui est top qui
donc
décide.
Donc pour moi, c'est un renversement de situation. Hein.
À suivre dans les prochaines semaines, Bartoli de retour en Fed Cup ou pas. On se retrouve
ça serait drôle.
Jeudi prochain, brave Jean, pour un nouveau Carrément Tennis. On sera
Miami. Hein.
Miami, bien sûr.
Je sais pas si je serai là. Hein.
Ah bah vous faites les
ah moi je serai pas là.
Ah bah d'accord.
Ah bah attends, mais oh, moi je vais finir à quelle heure?
Et moi j'ai fait ça.
Ouais, t'as une conscience professionnelle ou pas?
Ça serait pas la première fois, je coucherai tard.
Moi j'étais là. C'est scandaleux.
Merci à Carole, merci à Julien, merci à Émilie, merci à Benoît. Coucou à Myrtille encore aux États-Unis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Vous pouvez écouter le podcast, bien sûr, de Carrément Tennis sur RTL.fr et RTL-l'équipe.fr.
RTL L'équipe, la radio sport et info.